VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 8 août 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. La junte et les rebelles tchadiens ont signé un accord pour un dialogue national, mais deux grands groupes rebelles ont refusé de ratifier le texte à Doha, au Qatar. Au Mali, l'armée déplore la perte de 4 soldats dans une attaque de djihadistes présumés sur la base de Tessit. Les États-Unis veulent un véritable partenariat avec l'Afrique, a affirmé aujourd'hui à Pretoria le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au début de sa tournée africaine. Il se rendra également en RDC et au Rwanda. L'armée chinoise a prolongé ses exercices militaires près de Taïwan alors qu'elle devait se terminer hier dimanche. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le chef de la junte tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, et une quarantaine de factions rebelles ont signé ce lundi au Qatar un accord sur l'ouverture d'un dialogue national le 20 août à N'Djamena. Mais les deux principaux groupes rebelles ont refusé de signer l'accord. Nani Talani.
L'arrangement prévoit un cessez-le-feu général entre les autorités et les signataires. Le Conseil militaire de transition s'engage à assurer la sécurité des membres des groupes rebelles pour qu'ils participent au dialogue national. Quelques 42 sur les 47 groupes représentés à Doha ont signé l'accord et s'engagent à participer au dialogue national prévu le 20 août. Le FACT, l'un des principaux groupes rebelles, a décidé de ne pas signer l'accord, affirmant que ce rejet est concomitant à la non-prise en compte de leurs revendications comme la libération des prisonniers. Cependant, le FACT affirme qu'il reste disponible au dialogue. Un autre groupe rebelle n'a pas signé l'accord, soutenant que les principes pour lesquels ils se battent ne leur permettent pas de faire partie d'un dialogue dont ils ne connaissent pas les objectifs. C'est un accord historique. Notre porte reste ouverte pour les groupes qui n'ont pas signé, s'est félicité Abderrahmane Koulamallah, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien.
En Guinée, un collectif a appelé aujourd'hui à une nouvelle manifestation contre la junte et ce sera le 17 août, mettant fin à une trêve faute de réponse à ses demandes de dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Le Front National pour la Défense de la Constitution, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile était à l'initiative des manifestations organisées les 28 et 29 juillet où 5 personnes ont été tuées pour dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte. Au Mali, le camp de Tessalit dans la région dite des Trois Frontières a été la cible d'une attaque dont le bilan provisoire a été rendu public par les forces armées. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Hier dimanche 7 août 2022, aux environs de 15h, les unités des forces armées maliennes basées à Tessit dans la région de Gao ont fait l'objet d'une attaque terroriste. Tard dans la soirée, dans un post Facebook, les forces armées maliennes informent qu'il s'agissait d'une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes. S'agissant du bilan, on peut lire dans le post Facebook que le bilan fait état de 5 morts du côté des terroristes et 3 motos détruites. Et dans les rangs des forces armées maliennes, 4 soldats sont tombés et 2 autres ont été blessés et 3 véhicules des forces armées maliennes ont été détruits. Bien avant le post Facebook de l'armée, des postes de population de cette région du pays faisaient état d'un plus grand nombre de morts. L'armée a en tout cas promis de revenir plus en détail sur cette attaque et le bilan définitif. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Les États-Unis veulent un véritable partenariat avec l'Afrique, a déclaré aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite à Pretoria en Afrique du Sud, première étape de sa tournée africaine qui le mènera ensuite en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le point avec Abdourahman Dia.
Ce que nous recherchons avant tout, c'est un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Nous ne voulons pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle, a déclaré Anthony Blinken lors d'un point de presse avec son homologue Naledi Pandor. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier dimanche à Pretoria. Et c'est dans ce contexte que Washington a dévoilé un document d'orientation annonçant une refonte de sa politique en Afrique subsaharienne où les États-Unis entendent contrer la présence russe et chinoise et développer notamment des approches non militaires contre le terrorisme. Mais lundi, le secrétaire d'État a affirmé que Washington ne considère pas la région comme le dernier terrain de jeu dans une compétition entre grandes puissances. Cette nouvelle stratégie reconnaît l'importance démographique croissante de l'Afrique, son poids à l'ONU, tout comme ses immenses ressources naturelles et opportunités. Pour la première étape de sa deuxième tournée africaine, Anthony Blinken a choisi de s'arrêter en Afrique du Sud, qui, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, a adopté une position neutre et refusé de se joindre aux appels à condamner Moscou. Un sommet américano-africain est prévu le 13 décembre à Washington.
Au Kenya, environ 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain, mardi. Ils doivent voter 6 fois pour choisir leur président, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et quelques 1500 élus locaux. Sur les 4 candidats en lice pour la présidentielle, 2 ont dominé la campagne. Raila Odinga, 77 ans, en course pour la 5e fois, et l'actuel vice-président William Ruto, 55 ans, 2 vétérans de la politique, dont les immenses portraits bordent les routes et qui sont au coude à coude pour un scrutin qui s'annonce serré. La Cour de cassation du Maroc a prononcé un avis favorable à l'extradition vers les États-Unis du Français Sébastien Raoult. Les autorités américaines réclament l'extradition de cet étudiant de 21 ans, originaire d'Épinal, pour son implication présumée dans une affaire de cybercriminalité visant des entreprises américaines, dont Microsoft. Sébastien Raoult est incarcéré depuis le 2 juin à la prison de Tiflet près de Rabat. Il est passible d'une peine de 116 ans de prison aux États-Unis s'il était déclaré coupable, selon son avocat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a annoncé ce lundi la poursuite d'exercices militaires près de Taïwan. De son côté, l'armée taïwanaise a annoncé des exercices de défense dans la semaine simulant une invasion chinoise. Mohamed Oumfa.
L'armée populaire de libération continue de mener des exercices pratiques interarmées dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan en se concentrant sur des opérations conjointes anti-sous-marins et d'assaut en mer, a indiqué le commandement est de l'armée chinoise. Il n'a pas précisé dans quelle zone se déroulent les opérations. Commencé jeudi, au lendemain du départ de Taipei de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, les manœuvres autour de Taïwan devaient s'achever hier dimanche. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné la poursuite de ces manœuvres. Les forces armées taïwanaises ont annoncé lundi qu'elles vont organiser cette semaine des exercices militaires à balles réelles, simulant une défense de l'île contre une invasion chinoise. Selon l'armée taïwanaise, ces manœuvres étaient déjà programmées et ne sont pas une réponse aux exercices chinois.
Le président américain Joe Biden s'est dit aujourd'hui préoccupé par la poursuite de ces exercices militaires chinois près de Taïwan, mais a affirmé ne pas s'attendre à une escalade. Les États-Unis ont appelé aujourd'hui la Russie à cesser toute activité militaire dans et autour des centrales nucléaires en Ukraine, dont celle de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, est tenue par l'armée russe. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement depuis vendredi de bombarder la centrale de Zaporizhia, située dans le sud de l'Ukraine, et tombée début mars aux mains des soldats russes. 4 jours après la reprise des négociations de Vienne visant à redonner vie à l'accord moribond de 2015 sur le nucléaire iranien, l'Union européenne a mis un texte final sur la table, mais Téhéran n'a pas encore donné son aval. Les diplomates de l'ensemble des parties, Iran, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne, sont revenus depuis jeudi dans la capitale autrichienne pour une énième tentative de sauver l'accord. Le Sénat américain a adopté dimanche un plan de 430 milliards de dollars visant à combattre le changement climatique, à abaisser le prix des médicaments et à augmenter certains impôts sur les entreprises. La décision du Sénat est une victoire importante pour le président américain Joe Biden à quelques mois du mid-term qui détermineront le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat pour les 2 prochaines années. Le texte doit désormais être examiné par la Chambre des représentants où un vote final est prévu vendredi. L'unique centrale électrique de la bande de Gaza a redémarré ce lundi après la livraison de carburant depuis Israël. La centrale avait fermé samedi faute de diesel livré par l'État hébreu qui avait fermé les points de passage avec l'enclave palestinienne rouvert en matinée à la suite d'une trêve. Gustavo Petro, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, a prêté serment hier devant des centaines de milliers de personnes à Bogota. Le nouveau président a lancé un appel aux groupes armés pour signer la paix ainsi qu'à mettre fin à la guerre anti-drogue tenue en échec. Voilà pour le journal. Vous suivez VO Afrique. À présent, la minute éco avec Mohamedou Moufa.
Des tonnes d'oranges pourrissent dans des conteneurs bloqués dans les ports européens alors que l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes frais, et l'Union européenne s'affrontent dans un conflit commercial autour des règles d'importation. Le mois dernier, l'Union européenne a introduit de nouvelles exigences phytosanitaires pour lutter, selon elle, contre la propagation potentielle du faux Carpocaps, un parasite qui a un faible pour les oranges et les pamplemousses. L'Afrique du Sud dénonce des règles discriminatoires et excessives et a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le Mali effectue son retour sur le marché financier ouest-africain après la levée de ses sanctions par la CEDEAO et sollicite 270 milliards de francs CFA à travers une émission de titres financiers. Selon un officiel malien cité par Financial Afrique, cette émission sera la plus importante jamais réalisée par le pays et servira prioritairement au remboursement de dettes impayées. Le géant des mines et du négoce, Glencore, a publié des résultats records à l'issue du premier semestre malgré les scandales de corruption, le groupe ayant reconnu avoir payé des pots de vin dans 6 pays d'Afrique. Son activité charbon représente près de la moitié des résultats bénéficiaires à 18,9 milliards de dollars, soit plus du double qu'au premier semestre de 2020. Le groupe a continué à miser sur le charbon en pleine transition énergétique dans de nombreuses régions du monde.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Jean-Roger et bonsoir à tous.
C'est confirmé, le Français Sébastien Desarbres est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo.
Oui, la confirmation a même été faite par son club Niort de la Ligue 2 en France après avoir, dans un premier temps, menacé de traduire la Fédération Congolaise de Football Association en justice. Eddy Isango, adjoint à Kinshasa, le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Renier Patrice Mangada.
Bien entendu, chers journalistes, cela a été la décision du comité exécutif qui s'était réuni le samedi passé. Le nom de Sébastien Desarbres a été retenu comme sélectionneur national de la République démocratique du Congo.
Qu'en est-il du différent qui a semblé naître?
Bon, quand vous êtes un communicologue, vous allez comprendre déjà que c'était juste une communication pour gérer leur public. Il est vrai que nous avions annoncé son choix à quelques heures d'un match important qu'ils avaient. Il était tout à fait naturel qu'ils puissent à leur tour faire une réaction à notre communication pour gérer ne serait-ce que ce laps de temps. Et déjà, ils savent, ils ont le contrat de Sébastien Desarbres dans lequel il y avait une insertion ou une clause de sélection. Donc, ce qui veut dire, nous avons fait un appel à candidature, nous avons reçu une quarantaine, nous avons essayé de voir lesquels pouvaient nous convenir, elles étaient au nombre de 24, et c'est partant de ce 24 que le comité s'est mis à travailler et à éliminer, et à la fin c'était Sébastien Desarbres qui était choisi.
La CAF a réagi aux propos aux polémiques tenues en milieu de semaine dernière par Aurelio De Laurentiis.
Le président de Naples, dans un entretien à Wall Street Italia, avait déclaré qu'il ne voulait plus recruter de joueurs africains, sauf s'il signe une renonciation à participer à la Coupe d'Afrique. La Confédération africaine a pris son temps pour répondre. Elle se dit consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président de Napoli, qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA. L'instance fêtière demande à son homologue européen d'ouvrir une enquête à l'encontre du dirigeant italien. pas la suite. La CAF rappelle son attachement au rôle que joue le football en Afrique, mais aussi sur les autres continents pour rassembler et unir les personnes de toutes races, ethnies, linguistiques et religions. Elle se demande si Aurelio De Laurentiis peut inclure dans des conditions respectives similaires les joueurs d'Amérique du Sud, d'Asie et d'autres confédérations, leur interdisant de participer à leur compétition continentale, et rappelle que la CAN est la compétition phare du continent africain qui attire plus de 600 millions de spectateurs.
Page de sport VOA Afrique signée Élisée Oumpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Afrique du Sud pour la première étape d'un voyage en Afrique. Il a visité hier un musée qui commémore la lutte contre l'apartheid. Reportage de Kate Bartlett depuis Johannesburg, rendu par Nani Talani.
Anthony Blinken a visité hier le musée et mémorial Hector Peterson dans le canton de Soweto qui abritait autrefois le premier président démocrate d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Le musée porte le nom d'Hector Peterson, qui n'avait que 12 ans lorsqu'il a été tué par balle par la police lors du soulèvement de Soweto en 1976. Hector Peterson faisait partie des étudiants noirs qui protestaient contre l'utilisation dans les écoles de l'afrikaans, considérée comme la langue de l'oppresseur. Une photo en noir et blanc d'Hector Peterson, portée par un camarade désemparé, avait envoyé une onde de choc dans le monde entier, contribuant à galvaniser le mouvement anti-apartheid à l'étranger. Accompagné lors de sa visite par la sœur de Peterson, Antoinette Sitolé, le secrétaire d'État américain a déposé une couronne sur le site. Anthony Blinken a semblé faire référence à la propre lutte des États-Unis pour l'égalité raciale lorsqu'il s'est adressé aux médias après la visite.
Hector's story is one that really resonates.
L'histoire d'Hector est une histoire qui résonne vraiment parce que nous avons notre propre lutte pour la liberté et l'égalité aux États-Unis. Et l'histoire de l'Afrique du Sud est unique, mais il y a aussi tellement de points communs. Et cela résonne puissamment.
Anthony Blinken a déclaré que le musée était un rappel du pouvoir des jeunes pour changer la société.
Je pense que ce qui est si extraordinaire dans ce musée, c'est qu'il est une histoire vivante, car il inspire les gens à voir le pouvoir que les jeunes ont d'apporter des changements dans toutes nos sociétés.
Le plus haut diplomate américain a rencontré ce lundi le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, et lancé une nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique subsaharienne. Les éléments de la politique, y compris le changement climatique, le commerce, la santé et l'insécurité alimentaire, ont aussi été au centre des discussions.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la nouvelle stratégie américaine en Afrique. Lors de sa tournée sur le continent, le patron du département d'État, Anthony Blinken, compte mettre en valeur la vision de Washington pour le continent dans un contexte de poussée russe et chinoise. La démocratie, la relance économique post-Covid, la sécurité, le climat et la transition énergétique sont les grands axes de la réorientation de la politique américaine en Afrique. Vers quel type de relation entre Washington et le continent, comment l'Afrique, convoitée par les grandes puissances, peut-elle profiter de cet intérêt envers elle? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Retour sur la situation politique en Côte d'Ivoire qui a célébré ce week-end son 62e anniversaire. Toutefois, les anciens présidents Ari Konan Bédier et Laurent Gbagbo n'ont pas répondu à l'invitation de leur successeur Alassane Ouattara qui a gracié la veille son prédécesseur. La grâce présidentielle à Laurent Gbagbo a pour but de renforcer la cohésion nationale, selon le président Ouattara. Pour une analyse, Abdourahmane Dia, adjoint à Abidjan, Dr Bangali Ngoran, professeur d'histoire politique et de relations internationales.
La décision arrive à bon moment parce que, au sorti de, je dirais, la rencontre de décrispation du 14 juillet passé, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'attendaient à ce que les choses aillent crescendo, donc il y a une suite. Que ce ne soit pas simplement un effet d'annonce politique. Seulement là où il y a un problème, c'est qu'apparemment tous les Ivoiriens ne s'attendait pas à la même chose. Et disons que le PPACI s'attendait à ce qu'il y ait une mesure d'amnistie qui soit prise, qui, en même temps que cela apporte, je dirais, l'effacement de toutes les notes qu'on pouvait reprocher au président Laurent Gbagbo lui-même ainsi qu'à tous ses proches, je fais allusion aux prisonniers politiques comme aux prisonniers militaires, disons que la mesure qui était attendue ne devrait plutôt être impersonnelle, donc être étendue au maximum de personnes dans son entourage qui aujourd'hui encore sont détenues en prison.
Et également, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo n'ont pas répondu à l'invitation du président Ouattara à l'occasion du défilé militaire pour le 72e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter?
Alors, du point de vue interprétation, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu les causes qui expliquent cette absence-là des deux états-majors. Mais pour ce qu'on en sait, c'est que le PDCI, quelques instants après la cérémonie, a publié un communiqué pour expliquer que le président Bédié n'avait pas pu être là pour des raisons personnelles, sans dire plus. Et quant au PPACI, disons que ça a été jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le silence radio total. On suppose, donc on peut présupposer que leur absence s'explique par le fait que les mesures de grâce qui ont été prises n'ont pas pu couvrir la totalité des personnes, certainement. Donc la liste a été introduite lors des dernières rencontres par le président Gbagbo auprès du président en exercice.
Vous faisiez état de cette rencontre du 14 juillet. Certains y voient un bon signe pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. D'autres pensent que cette photo-là montre qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Quelle est votre interprétation de tout cela?
Clairement, ces trois grands qui se sont rencontrés le 14 juillet sont des acteurs qui sont sur la scène ivoirienne au moins depuis 1990. Et il est bon qu'ils passent la main. La question est de savoir est-ce qu'en interne, disons, cette approche des choses est envisagée, est-ce que des dispositions sont prises pour que une nouvelle génération soit préparée à monter dans la hiérarchie de cet appareil politique afin de continuer de poursuivre ce qu'ils ont engagé comme combat.
C'était l'analyse politique Bangali Ngoura.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, le gouvernement a annoncé un front commun avec les partis politiques pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans le nord du pays. Cependant, certaines formations politiques portent des réserves sur l'initiative de Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
À la lecture du communiqué de presse émanant du gouvernement à la suite de la rencontre avec les partis politiques, Targoun Sambiri, président du Parti des démocrates socialistes africains, s'indigne de la connotation que le pouvoir veut lui donner.
Ce régime est tellement habitué à la dictature qu'il ne se rend même plus compte des termes des choses. Il confond tout. Information est devenue dialogue. Il est devenu discussion. Jusqu'à aller dire qu'il y a eu une alliance. Ils veulent nous rendre complices de beaucoup de choses. Et je pense que le peuple n'est pas dupe.
Nicolas Lawson du Parti du Renouveau et de la Rédemption, PRR, a décliné tout simplement l'invitation du gouvernement. Il doute de la sincérité de la démarche des autorités.
S'il n'y avait pas des djihadistes, est-ce qu'ils allaient appeler leurs frères pour s'asseoir, pour imaginer ensemble une politique qui permette de sortir ce pays de son instabilité, de la misère et puis des crimes de toutes sortes? Est-ce qu'ils allaient faire ça? C'est ça le drame. Parce qu'ils ont vu leurs limites, leur incapacité à faire face. Maintenant, ils nous appellent, ils nous invitent pour dire qu'ils viennent s'asseoir pour réfléchir avec eux. Est-ce qu'ils l'ont fait avant? Est-ce que les défis n'étaient pas là?
À la dynamique Monseigneur Quadro, un regroupement de partis politiques ayant soutenu le candidat Agbeyomi Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2020 et qui vit en exil, on estime que la rencontre organisée par le gouvernement est une fuite en avant et une instrumentalisation du pouvoir.
Certes, la DMK est consciente qu'il faut que la nation togolaise devienne une réalité et reste soudé derrière les forces de défense et de sécurité. Mais cette vérité tautologique ne peut s'imposer dans un Togo au tissu social en lambeaux à cause des crises sociopolitiques récurrentes depuis plus de 30 ans, on ne peut régler cette crise qu'à travers un consensus national.
Kafui Adjamagbo, secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains et coordinatrice de la DMK, interpelle le président de la République, Faure Gnassingbé.
Mais il est où? Celui qui est à la tête de ce pays, le chef de l'État, il est où? Quand on est dans cette situation-là, où nous sommes tous en danger, est-ce qu'on peut se permettre de rester chez soi et d'envoyer quelqu'un pour, soi-disant, informer la classe politique? Quel mépris et quel message veut-on adresser à ce peuple qui attend que ceux qui sont à la tête du pays le protègent?
Selon le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé, le gouvernement est convaincu que c'est une œuvre collective qui doit être menée en soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les terroristes. Apparemment, il devrait travailler davantage pour convaincre les sceptiques. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Sénégal, le quotidien national Le Soleil vit des heures sombres, les plus sombres de son histoire. Une situation délétère qui a conduit à la démission de plusieurs responsables et à la non-parution de l'un des doyens de la presse africaine. Un fait inédit au Sénégal. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Une première depuis 50 ans. Pour la première fois depuis sa création en 1970, les Sénégalais se sont levés sans Le Soleil, le quotidien national. Une situation provoquée par les travailleurs qui se disent exacerbés par la gestion de leur directeur général, Yaya Mbaye. Omar Fedior, chargé des revendications de la section syndicale Sentix du Soleil.
C'est avec le cœur très, très, très meurtri que nous avons décidé de bloquer le journal. Mais Yaham ne nous a pas donné le choix.
Il est 3 heures du matin et comme c'est le cas depuis plusieurs jours, Omar Fedior et ses collègues montent la garde devant le portail de l'entreprise de presse jusqu'à 5 heures du matin pour empêcher l'impression du quotidien national. Pour eux, ce combat est celui de la survie.
Le signal que nous voulons lancer, il est adressé au chef de l'État. C'est lui qui a nommé Yaya Mbaye. Je rappelle que dans son bilan matériel, Yaya Mbaye a fermé le magazine du Soleil. Yaya Mbaye a réduit le journal de 32 à 24 pages. Avec Yaya Mbaye, le sud du Soleil, on n'en parle plus. Yaya Mbaye n'a pas de projet pour le Soleil.
Longtemps convaincu qu'une solution à l'amiable était possible, les travailleurs du quotidien national disent avoir enchaîné les actions pacifiques avant de se radicaliser. Leur délégué syndical, Omar Fedior, explique.
Étant informé de l'approche des élections syndicales, Yaham décide d'affecter les gens qui étaient investis. Les gens ont dit trop, c'est trop. Stop Yaham, ça va pas passer. Il s'est entêté quand même. Yaham affecte des gens qui n'avaient pas de clause de mobilité dans leur contrat. Ils atterrissent à l'inspection du travail qui dit effectivement, Yaham, vous n'avez pas le droit d'affecter ces gens-là. Yaham dit, c'est pas son problème. Même s'il va en procès, de toute façon, c'est le soleil qui perd. C'est pas, l'argent ne sortira pas de sa poche.
Après avoir joué les bons offices et tenté plusieurs fois de rapprocher les deux camps, Ahmadou Bamba Kassé, secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication, SENPIX, pense qu'un point de non-retour a été atteint et qu'il faut impérativement que le président Macky Sall intervienne d'une manière ou d'une autre.
La seule solution qui me semble envisageable, c'est que l'autorité publique fasse une bonne lecture de la situation et prennent les décisions qui s'imposent, soit en contraignant la direction à respecter quand même les acquis sociaux, mais surtout à respecter les lignes de transparence de la gestion, soit en faisant appel à une nouvelle forme de management.
Après 3 jours de non-parution, les travailleurs du quotidien national Le Soleil comptent reprendre le travail ce mercredi suite à différentes médiations. Le Soleil sera de retour dans les kiosques à journaux. Le directeur général Yaya Mbaye, exfiltré par la gendarmerie lors des récentes tensions, ne sera lui probablement pas présent pour la reprise pour des raisons évidentes de sécurité. Sérina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it there?
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.